La main verte d'Alain Baraton, donc, ce matin, vous nous rappelez que tous ceux qui sont allés à Madagascar ont pu voir cet arbre, l'arbre du voyageur.
Une plante qui est aussi visible dans nombre de pays d'Afrique, comme par exemple le Bénin et le Cameroun, en Polynésie aussi, en Martinique, Guadeloupe, île de la Réunion. Mais il est vrai que ces terres natales sont celles de Madagascar. Pour être exact, l'arbre du voyageur n'est pas botaniquement parlant un arbre, mais une plante herbacée au même titre que le bananier, et il appartient à la même famille que les fleurs perroquets ou les fleurs du paradis, à savoir les strelitzia.
L'arbre du voyageur, il ressemble à quoi ?
Il est impossible de le confondre avec un autre végétal. L'arbre du voyageur, soyons précis, produit un stipe, c'est-à-dire, comme le tronc des palmiers, un stipe qui peut atteindre 10 mètres de hauteur.
Qu'est-ce qu'on appelle le stipe ?
Le stipe, c'est tout simplement, c'est le tronc en fait, c'est le fût de toutes les plantes herbacées ou des palmiers, pardonnez-moi, l'émotion. Voilà comment on nomme donc cette partie des palmiers et des autres plantes dites herbacées. Donc c'est un stipe d'où s'échappent, sur l'arbre du voyageur, des feuilles très grandes, énormes, qui peuvent atteindre 3 mètres de longueur. Mais elles sont disposées en éventail. On a vraiment l'impression, dans la nature, de voir un éventail. C'est donc l'arbre du voyageur.
Pourquoi ce nom étrange d'arbre du voyageur ?
La première hypothèse prétend que la plante pousse en fonction de son environnement, et en particulier de la position du soleil. Et ses feuilles, en éventail, indiquent au voyageur la route à suivre.
Oui, hein, sauf que les experts disent que cette hypothèse, c'est faux. Hein.
Oui, la seconde hypothèse est que l'eau s'accumule à la base des feuilles, dans des cavités, que cette eau permettait aux voyageurs de se désaltérer. Bien pratique quand on sait que la plante vit dans des régions où les températures sont élevées.
Là encore, c'est faux.
Vous avez raison. S'il y a bien de l'eau à la base des feuilles, celle-ci est brouillée par des végétaux en décomposition. Les larves des moustiques, des insectes morts et des excréments de chauves-souris, car ce sont elles et les lémuriens qui pollinisent la fleur. Autant vous dire qu'il faut vraiment, mais alors vraiment être assoiffé pour boire de cette eau.
Alors au final, pourquoi ce nom donc, l'arbre du voyageur ?
Bah, s'il y a bien de l'eau à la base de la feuille, il y en a aussi en quantité dans le creux, dans le cœur de l'arbre. Et il suffit d'un coup de machette pour faire jaillir une sève abondante, fraîche et plus que potable, vraiment désaltérable. C'est pour cette raison, et uniquement pour celle-ci, que l'arbre du voyageur est ainsi appelé.
Vos conseils à présent, vos réponses aux interrogations des auditeurs de France Inter. Mitzi, par exemple, nous explique qu'il a un ginkgo d'1,30 m en pot sur son balcon. Mais depuis un an, cette plante ne grandit plus et aux extrémités, il y a un groupe de feuilles qui l'empêche de pousser. La question, dois-je couper, docteur ?
Les Chinois l'appellent plante en pot, à savoir bonsaï. C'est le nom, c'est la traduction d'une plante en pot. Quand on a un bonsaï dans un pot, on peut comprendre qu'il ait quelques difficultés à se développer, c'est normal. Là, nous avons un ginkgo d'1,30 m. Donc, ce n'est pas un bonsaï, c'est un arbre. Et un arbre ne se plaît pas en pot.
Bonsaï ou bonsaï,
bonsaï
d'ailleurs ?
Bonsaï.
Bonsaï avec un S.
À ne pas confondre le bonsaï, le cri célèbre du kamikaze asiatique qui fondait, comment dire, son...
C'est le cri que vous allez pousser tout à l'heure à Versailles, avec 8500 jeunes femmes derrière vous ?
Oh, ça sera la séquence émotion annuelle pour Baraton, pardonnez-moi.
Ce matin ?
Tout simplement qu'il y a une course à pied ce matin à Versailles. 18500 participants, c'est considérable, dont la course des princesses. Je donne les départs. Imaginez qu'à 11h45, 8500 femmes, 8500 princesses vont courir. J'allais dire derrière moi.
Non, mais ça va pas.
Alain Baraton,
vous êtes en train de faire de la tête, Baraton.
Quel bonheur. Donc,
on en finit avec le ginkgo.
Voilà, donc, non, tout simplement que cette plante ne se plaît pas en pot. Il est grand temps maintenant de la mettre dans le jardin.
Marie-Jo nous parle de son oiseau de paradis. C'est une plante, vous allez nous expliquer, c'est quoi d'ailleurs ?
Eh ben, on en a parlé tout à l'heure justement, c'est le strelitzia. C'est une fleur qui est souvent le orange. C'est une plante originaire, là encore, des régions chaudes.
Donc l'oiseau de paradis de Marie-Jo existe depuis au moins 10 ans. Il n'a jamais fleuri. Les rares fleurs se dessèchent. Que doit-elle faire, Marie-Jo ?
Manque d'humidité, manque de nourriture dans la terre. Vous savez, les plantes exotiques sont des plantes qui prennent beaucoup d'eau sur leur feuillage. Quand il pleut dans les pays chauds, ça tombe beaucoup. Donc l'oiseau du paradis a besoin d'une humidité réelle et d'une terre très riche. Donc si l'un des deux éléments manque, la plante ne se plaît pas et ne peut pas fleurir. Je vous rappelle que la fleur a pour objet chez un végétal d'offrir des graines. Et que si la plante se rend compte qu'elle n'a pas la force pour produire à terme les graines et les fruits, elle préfère avorter, elle va donc se débarrasser des fleurs.
À propos d'un tamaris à présent, Daniel a planté son tamaris il y a plus de 5 ans et il ne se développe pas. Quelle peut en être la cause ?
Alors là, il y a plusieurs raisons. Souvent, une plante ne se développe pas parce qu'elle a été mal plantée. D'où l'importance, quand on a planté un végétal qui était en pot, de bien... détricoter, j'allais dire, les racines pour qu'elles puissent ne pas continuer à tourner en spirale dans la terre. Mais il se peut que la plante ne soit pas heureuse là où elle a été plantée. Parfois, il suffit de la déplacer d'un petit mètre pour qu'elle soit heureuse. Il s'agit peut-être d'une raison d'emplacement. Peut-être aussi que le sol ne lui plaît pas. Le tamaris aime bien les terres légères. Mmh. Il aime bien les terres sablonneuses. Il a besoin de soleil. Il a besoin, là encore, d'une certaine humidité, même s'il supporte les pentes de sécheresse. Il a besoin, en début de saison, de beaucoup d'eau.
La semaine dernière, un auditeur ou une auditrice nous parlait des paons dans les parcs qui pouvaient manger éventuellement les pyrales du buis. Eh bien, ce matin, Marie-Laure nous demande s'il est vrai que les mésanges mangent les pyrales du buis. Est-ce qu'elle pourrait sauver son vieux buis presque centenaire?
J'ai un doute énorme, parce que j'ai rarement constaté, mais je n'ai pas la compétence de certains pour les oiseaux, mais j'ai rarement vu des mésanges à terre. Les mésanges sont des petits oiseaux superbes que l'on voit en l'air. Les moineaux, eux, on les voit souvent sur le sol. Mmh. Les mésanges, rarement. Et pour attaquer les pyrales du buis, il faut être à terre. Alors, les poules, peut-être, mangeraient les pyrales. Peut-être que les paons les mangeraient aussi. Pour les mésanges, je ne sais pas.
On termine avec un dernier conseil pour le week-end.
Vous vous souvenez, il y a 50 ans, quel événement majeur s'est passé sur la planète il y a 50 ans?
Woodstock. Ah, Woodstock.
Woodstock. Sur la Lune, c'est pas du tout. Eh bien, Woodstock Spirit. Vous remarquez mon accent, est célébré eh bien, à la Saline Royale. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement. C'est à Arc-et-Senans dans le Doubs. Et c'est la grande exposition de cet été, Woodstock à la Saline Royale.
Faites tourner, Baraton. Merci, Woodstock avec Alain Baraton. À samedi prochain, Alain. À samedi.